La chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lire » et cette semaine « Je lire » je termine tout juste avec Bastian Ader, le quatrième roman de Thomas Giraud publié aux éditions La Contre-Allée, publié en août dernier et qui a déjà pas mal fait parler de lui. Et Thomas Giraud est en tournée de rencontres depuis ce mois d'août et a beaucoup travaillé, discuté autour de ce livre avec Bastian Ader. Bastian Ader, c'est cet artiste néerlandais qui faisait des chutes. C'était une de ses manières de faire de l'art. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il faut lire ce livre avec Bastian Ader, que l'on connaisse ou pas, l'œuvre de Bastian Ader. Il faut lire ce livre parce que l'écriture de Thomas Giraud est une merveille dans laquelle on se plonge chaque fois et un peu plus encore avec délice. Dans ce quatrième livre, par un tutoiement, une adresse directe du narrateur à ce personnage, cette personne, Bastian Ader, par le tutoiement, eh bien, on déroule la vie et l'œuvre de cet artiste, de cet homme. Une vie encombrée de fantômes, le fantôme du père assassiné, ça ce sont dès les premières pages, par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis d'autres fantômes qui viennent peupler ce livre et qui sont peut-être aussi les fantômes de l'auteur. C'est une écriture d'une fluidité magnifique, d'une limpidité et d'un agrément toujours plaisant puisqu'on apprend beaucoup de choses, qu'il y a un vocabulaire choisi, mais pas m'as-tu vu. En fait, pour tout dire, chaque fois que je retourne dans un livre ou dans un texte de Thomas Giraud, ça me fait le même effet qu'avec certains écrivains que j'adore particulièrement et qui sont comme des refuges, des endroits, des psychoniches où on aime aller se lever. Je pense à Henri Calais ou Nicolas Bouvier, qui sont parmi les gens que je vénère le plus en littérature, mais eux sont morts et Thomas est bien vivant, et en plus nantais, donc on a le loisir et le plaisir de se croiser, d'échanger, et c'est toujours très riche. Et le lire me ramène aussi à nos échanges. Bref, tant mieux, d'autres livres arriveront de Thomas Giraud, et celui-ci, ce quatrième, peut-être, et ça c'est lui qui me l'avait glissé, clôt une forme de cycle ou de série autour de personnes existantes ou ayant existé qui lui donnent la matière à écrire. Pourquoi ? Parce que ces personnes, Jackson C. Frank dans son deuxième livre, ou Bastian Ader ici, ou Élisée Reclus dans le premier, sont des personnes avec suffisamment d'espace, de fantômes justement, ou de zones d'ombre, ou d'angles morts, dans leur vie, dans leur chronologie, dans leur biographie, dans leurs œuvres, pour y mettre ce qu'un auteur peut y mettre et ce qu'un lecteur peut y trouver. Et c'est en ça que l'écriture de Thomas Giraud est extrêmement puissante. Elle me rappelle aussi un autre bien vivant, et tant mieux, c'est Fabio Viscogliosi. Et il y a quelques liens avec le Harpo, relativement récent, que Fabio avait publié chez Actes Sud. Je ne vous en dis pas beaucoup plus, et j'avais envie de vous en lire un extrait, mais le mieux est encore d'écouter un extrait du livre lu par l'auteur lui-même dans une magnifique lecture musicale qu'il a construit avec son complice Stéphane Louvain, qui fait partie de Blonde Nelly Young, qui faisait partie des Little Rabbits, ou de la première mouture de French Cowboy. Stéphane Louvain et lui se sont déjà associés il y a quelque temps pour une lecture musicale autour du livre La Ballade Silencieuse de Jackson C. Frank. Eh bien, ils remettent ça, et de très belle manière, avec ce livre, avec Bastian Ader. Une lecture musicale où les deux jouent de la guitare, chantent et disent le texte. Une répartition un peu plus équilibrée encore dans les rôles pour cette lecture musicale. On écoute un fragment d'un enregistrement réalisé lors de la deuxième représentation de cette lecture musicale toute fraîche, pendant le festival Bifurcation 6e édition qui se tenait au Nouveau Studio Théâtre le week-end du 27 et 28 novembre dernier, à l'invitation d'Anthony Poirodeau, Thomas Giraud et Stéphane Louvain, donc faisaient cette lecture musicale avec Bastian Ader. Nous voici un extrait. «
Tu as envie de nager. Tu hésites. Tu ne plonges pas, mais tu glisses prudemment. Pour l'eau fraîche et pour retenir ton corps le plus longtemps possible. Maintenant, tu es entièrement dans l'eau. Et tu sens l'océan sur tes épaules. Tu vérifies la pesanteur, les jambes dans le vide immense et liquide. Puis tu bascules les hanches et commences à ramper à la surface de l'eau. Pendant quelques minutes, tu nages une brasse vigilante, jamais plus loin que la distance d'un bras du bateau. Tu fais des cercles autour d'Ocean Wave sans mettre la tête sous l'eau, ni les yeux. Surtout pas les yeux. Comme si l'eau de l'océan sur la cornée, même quelques instants, pouvait te rendre aveugle ou incapable de retrouver ton bateau. Puis, tu vas plus loin, la tête sous l'eau. Tu nages le crawl, comme si tu devais te défouler pour ne pas penser au bateau. Tu nages bien. Qui est inquiet puisque personne ne sait rien et que toi tu essaies de ne pas penser. Sans déployer beaucoup d'énergie et d'efforts, avec quelques mouvements légers, tu avances. La mer te caresse le menton, le ventre. Il n'y a probablement guère plus de 50 mètres de profondeur, mais ça suffit à rendre le rapport avec l'océan plus troublant. Ça ressemble à toutes les mers dans lesquelles tu t'es baigné, et c'est pourtant un tout petit peu différent. Il y a comme un air de non-famille dans les échos des vagues sur ton corps, dans la salure, dans la présence sans fin du ciel et de la mer. Avec ce silence incroyable. Plutôt, ces bruits de mer et de ciel que pour la première fois tu peux entendre sans qu'ils ne soient coupés par des voix d'enfants, des voitures, des bateaux. Seulement le bruit singulier de la haute mer contre ton cou, contre la coque, et ce silence des poissons et du ciel autour. Ça creuse le ventre d'imaginer qu'entre les fonds marins et ton corps passent des poissons, petits, grands, invisibles, car de toute façon, tu ne vois rien du tout. Ce sont des picotements. Quelque chose qui ressemble assez à ce que tu ressentais petit en bravant en cachette les interdictions. La monnaie pas rendue intégralement, une mauvaise note dissimulée, une fugue de quelques minutes. Ces transgressions sans grande conséquence une fois qu'elles appartiennent au passé, mais qui, quelques minutes avant, et pendant qu'on les accomplit, font battre le sang. Mais ce moment calme, reposant, apaisant presque, ne dure pas. Sans que tu ne vois la chose arriver, tu as trouvé qu'une vague, ou le vent, ou peut-être seulement le battement d'aile d'un oiseau dans le ciel, rendait l'eau froide. Une vague suivante t'a semblé encore, encore plus froide. Les suivantes furent glaciales. Tout à coup, dans un mélange de crainte, de ce qu'il te reste d'audace et de grandes bouffées de panique, c'est la panique qui a pris le pas. Elle est restée, avec obstination. Tu t'es senti seul, très seul, même avec les poissons qui passaient en dessous de ton ventre, ou peut-être à cause d'eux. Tu as senti que de chaque côté, tu avais un monde et que tu étais loin des autres.
Dreams, 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 d
À un moment, tu as arrêté de dessiner pour ne faire que gommer. Et l'idée est venue en marchant longtemps, en faisant des détours pour rentrer chez toi. C'est répété dans ton esprit au réveil. Tu y as pensé en buvant une tasse de café ou de thé, au cours d'une de ces fêtes avec les autres étudiants dans lesquelles tu t'égarais parfois, étant là sans y être, à regarder les disques pour ne pas regarder les autres, à déambuler, une bière à la main, à surveiller par la fenêtre la nuit avec son goût de canal. L'idée s'est solidifiée en regardant la pluie laver les trottoirs, en lisant quelque chose sur Eras de Kooning Drawing de Rauschenberg, en lisant quelques pages soulignées dans Melville ou dans Poe, avec le frisson de la bonne idée. Tu as réalisé que tu te trompais sur ce qu'il pouvait sortir de bon de ce cours de dessin. Ce n'était pas le dessin qui comptait.
Il y avait la gomme.
Dont la forme changeait au fur et à mesure que tu la frottais contre le papier. Cette longue et patiente disparition en petits morceaux de ce beau rectangle frais et souple du premier jour, si blanc, et maintenant comme cabossé, gris, tordu. Tu aurais pu conserver comme des dessins d'un genre nouveau ces minuscules pelures de gomme et de papier mélangées, mis dans des pots à yaourt en verre translucide sur lequel tu aurais collé de petites étiquettes blanches où tu aurais griffonné avec ton écriture rapide et illisible « Bassienader » et en dessous « Cours de dessin, 1961, Académie de Rietveld ».
Et il y avait aussi la feuille.
Qui prenait une place de plus en plus importante, paradoxalement. Alors que, râpé avec le temps, devenu translucide, se couvrant de dessins abstraits, le papier laissant apparaître sa trame, certaines pliures, ravines discrètes survenues à l'occasion d'un coup de gomme trop volontaire, la feuille devenait de plus en plus fine. Cette feuille devenait et laissait la place pour la possibilité de choses plus fondamentales. La gomme, tachée, y avait laissé des gris indélébiles, où s'étalaient en profondeur des poussières qui s'étaient accrochées. Tu tenais enfin quelque chose. Des ombres disparues s'y dessinaient. Tu le murmurais, puis l'affirmais de plus en plus fort, en montrant du doigt ces teintes grises, bistres parfois, que la feuille prenait, fier peut-être de ton originalité, ou seulement, pour tenter de trouver une contenance dans ton incapacité à faire. Que faire disparaître chaque fois ce qui avait été face émerger des formes indéfinies, mais pourtant bien réelles, les draps sales d'un fantôme peut-être, était une idée émouvante. Qu'en est-il de tes projets? Qu'en est-il de tes plans? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu attends? Qu'en est-il vraiment? Qu'en est-il de tes souhaits, de tes vœux d'avant? Est-ce que tu es prêt et toujours partant? Qu'en est-il maintenant? Qu'en est-il de ton île? Au trésor, dis-moi, qu'en est-il de ta ville? Lumière et quoi? Qu'en est-il des mille et une nuit? T'y crois? Qu'en est-il de l'étoile? Qu'en est-il de la comète? Ces promesses géniales que tu m'avais faites, qu'en est-il en fait? Et qu'en est-il de l'envol? Qu'en est-il de la comète? Et ta parole, qu'est-ce que t'en as fait? Qu'est-ce que t'en as fait? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Qu'en est-il de ton île? Au trésor, dis-moi, qu'en est-il de ta ville? Lumière et quoi? Qu'en est-il des mille? Qu'en est-il du départ? Qu'en est-il du désir? Dont dont tu me faisais part, celui de partir, celui de partir, celui de t'enfuir.